Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec Delphine Saltel.
Ça fait déjà une semaine, donc je suis venue ce matin pour leur rendre hommage aux victimes. C'est important, quoi. Ils étaient là pour s'amuser, quoi. J'ai toujours peur parce que moi j'habite à Saint-Denis. Je sors quand même, mais souvent gosse, quoi. Ça peut arriver n'importe quand. Et... mais il faut pas leur montrer qu'on a peur, quoi. Pour les victimes, ben, ils auraient aimé nous voir joyeux. Faut leur montrer qu'on est fort et qu'on n'a pas peur.
Ce jour-là, à Paris, une victime des attentats s'est éteinte, portant à 130 le nombre de personnes tuées dans les attaques terroristes. Une semaine venait de s'écouler depuis la nuit terrible du 13 novembre. Une semaine où le temps s'était figé dans les images de sang, les récits de survivants, les noms des victimes et leurs histoires de vie fauchées. Ce jour-là, les reporters des Pieds sur Terre ont choisi 4 points sur la carte de France, du plus proche au plus lointain. Ils sont allés d'abord sur les lieux meurtris près du Bataclan. Ils sont allés sur le marché de Saint-Denis, encore sous le choc des attentats au Stade de France et de l'assaut donné en centre-ville contre les terroristes en planque. Puis, ils se sont éloignés un peu de l'épicentre pour aller à Versailles, à 20 km des lieux du drame. Et enfin, ils se sont rendus dans un petit village au nord de la Bretagne, au milieu des champs et des exploitations agricoles. Ils ont écouté ce que chacun ressent après le choc. Les peurs réactivées, la tristesse, la violence des amalgames, les tentatives pour comprendre et ne pas désespérer. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est une semaine après, un reportage collectif de Jérôme Sandelard, Émilie Chaudet, Rémi Douat et Inès Léraud.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Vendredi 20 novembre, il y a des cordons de sécurité tout autour du Bataclan et des cars de police. On ne peut pas accéder au trottoir. Il y a des milliers et des milliers de bouquets de fleurs, des photos. On peut lire par exemple ce message. France, tu as le cœur meurtri par les exécutions commises sur tes enfants. Tu pleures cette injustice. Un agréable moment d'amitié et de partage s'est transformé en carnage. Tu te demandes, pourquoi s'en sont-ils pris à mes enfants, qui ne voulaient que l'amour et la joie? Et encore ce message, nous continuerons à boire des coups en terrasse et à aller au concert. Let's drink, let's love, let's rock. Et sur le sol, des dizaines, des milliers de petites bougies, qui pour la plupart sont éteintes ce matin parce qu'il pleut, mais quand même, il y en a quelques-unes qui sont allumées. Et sur la devanture du Bataclan, on peut encore lire « Nous, production présente, Eagles of Death Metal ». Comme si le temps s'était arrêté au 13 novembre.
Je m'appelle Amaury, j'étais au concert des Eagles of Death Metal le 13 novembre au Bataclan, j'ai 24 ans. C'est un concert de rock, donc ça bouge beaucoup. Ma copine est un peu plus petite que moi, donc a été, je l'ai perdue dans la foule. Je l'ai cherchée pendant un moment pendant le concert, mais je l'ai pas vue. Donc du coup, je suis resté là où j'étais. J'étais face à la scène, vers l'avant, jusqu'à ce que on entende les coups de feu. Ça ressemble à des pétards. C'est fait comme des petits pétards inoffensifs, sauf que des gens meurent. Quand ça a commencé à éclater, tout le monde s'est baissé, donc très vite la musique s'est arrêtée. Donc je me suis retourné et j'ai juste eu le temps d'apercevoir la silhouette d'un des tireurs. Voilà. Et quand j'ai vu la silhouette du tireur, mes jambes se sont mis à courir toutes seules en fait. J'ai marché sur les gens qui étaient devant moi et j'ai sauté la barrière en faisant passer mes pieds par-dessus la tête. Et je suis allé me réfugier dans les coulisses à la recherche d'une fenêtre. Je me suis retrouvé donc dans les toilettes avec 5 autres personnes, mais on était 7 dans 1 mètre carré. Et j'étais le plus au fond possible du premier étage. Et ça a tiré, on entendait les coups de feu depuis l'autre côté de la salle. C'était très violent, et puis ça s'est calmé. Il y a eu un grand moment de silence, et j'ai énormément pensé à Isobel, qui est ma copine, qui elle était je ne sais où. J'ai su par la suite, enfin, là où était ma copine, ça a été d'une violence inouïe. Moi j'ai prié pour pas avoir les tueurs monter. Je les ai juste aperçus. Elle était en face d'eux, et ils sont montés au balcon, et depuis les balcons ils tiraient dans la foule qui était couchée par terre. Donc moi je suis resté coincé dans la toilette un long moment. Là, j'ai vraiment plus aucune notion du temps qui s'est écoulé là-dedans. Quand je suis descendu, on a dû donc retraverser la Seine, et il y avait un policier qui m'a demandé de regarder le plafond. En marchant, j'ai balayé la salle, parce que je pensais la retrouver là. Et donc on est sorti du Bataclan, on a fini par sortir de la salle. Et j'ai cherché partout ma copine, donc, dans le cordon de sécurité. Ça a duré peut-être 5 minutes, 10 minutes, ça a été assez court. Et c'est elle, en fait, qui m'a sauté dans les bras. Et à partir de ce moment-là, voilà, ça y est, c'est fini. Pour nous, l'horreur était... On avait échappé au pire, et c'était surréaliste, parce qu'elle est restée dans la fosse et elle a rien eu. Elle a rien eu. C'est une miraculée. Mais là où on était, dans le cordon de sécurité, c'était pas pareil. J'ai vu des gens complètement perdus, bouleversés. Et aujourd'hui, j'ai toujours un peu cette sensation de scrupule d'avoir survécu, alors que tant de gens ont été blessés ou tués, et tant de familles sont endeuillées. Moi, j'ai rien eu. Il y a une semaine qui s'est écoulée depuis le drame, et on a essayé de reprendre maintenant une vie normale avec ma copine. J'ai su, donc, après avoir retrouvé Isobel, que pendant toute la tuerie, elle est restée couchée à faire la morte au milieu de la fosse, et qu'un homme lui a protégé le visage. Voilà, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je l'en remercie du fin fond de mon cœur, et je cherche à le contacter. Depuis cet événement, je me perçois pas du tout à travers la fusillade, mais nos amis restent nos amis. Il n'y a eu aucun changement. C'est ce qui m'a fait très peur, c'est qu'on a été contacté pour des plateaux de télé où on était définis comme des stars, et je trouvais ça tellement indécent par rapport aux familles endeuillées. Je me définis absolument pas à travers cet événement-là, mais tous les gens qui nous ont envoyé des témoignages de soutien nous ont beaucoup aidés. Et j'ai eu, notamment, je suis allé à l'hôpital me faire retirer un éclat que j'ai dans le dos, et la dame de l'accueil de l'hôpital m'a envoyé un message que je vais vous lire et qui m'a extrêmement touché. Elle m'a envoyé ça. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais vraiment garder le sourire. Continuez à vivre et en profiter, car c'est avec des jeunes comme vous qu'on avancera. Plein d'espoir et de belles choses, vous êtes le soleil de notre journée, l'accueil des urgences Cochin.
Là, je suis devant la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis. Le marché a lieu malgré la pluie battante. Des stands de vêtements, de fruits et de légumes et de valises sur toute la place.
Oui, on est à l'entrée de la halle du marché de Saint-Denis, le cœur de Saint-Denis, à côté de la mairie, du centre commercial Basilique, voilà. C'est bien pour faire ses courses aujourd'hui, il n'y a personne. J'ai jamais vu ça, en 45 ans. Normalement, tu marches pas, hein. T'entends crier, les gens se bousculent pour choper les dernières bananes et tout. Et là, il n'y a rien, quoi, tu vois. C'est assez stupéfiant. Je crois que c'est la seule ville du monde où tu peux trouver un costume pour travailler pour hommes à 15 euros, rue de la République. Je m'appelle Rodolphe. Et moi, je suis né ici il y a 46 ans, en 69, à l'hôpital de La Fontaine. Et je vis même dans la maison dans laquelle j'ai grandi maintenant, donc c'est pour te dire. J'ai un fils qui vit à Paris et qui s'est pris aux attentats en pleine gueule parce qu'il était à côté du café. Donc il y a une de ses copines qui s'est pris 3 balles. Et donc mon fils a passé la nuit à l'hôpital et la gamine, elle a plus de jambe en fait. Ils lui ont enlevé un petit bout de jambe parce qu'il fallait la sauver. Donc ça a été assez violent. Et puis après, on s'est pris dans la gueule à Saint-Denis, quoi, quelques jours après. On sait que les mecs dorment là, c'est un peu hard, quoi.
Quels mecs?
Bah, les terroristes. Ça a pété de partout. Donc en même temps, nous, on a l'habitude que ça pète ici parce que je vis quand même dans un seul quartier de France où il y a un couvre-feu à partir de 8h du soir parce qu'il y a trop de violence. Donc en fait, ils ont bouclé le quartier de la gare. Donc au début, tu te dis, voilà, ils sont encore en train de se foutre dessus. Merde, il y a les flics qui arrivent pour aller les chercher. Puis après, tu te dis, ah non, c'est plus compliqué. T'entends plein de voitures. On n'a pas l'habitude à 7h du matin. Donc tu vois les journalistes arriver, les CRS, l'armée, donc là tu dis ah il y a autre chose. Ouais, voilà. Enfin on sait que la violence est là tous les jours, on voit des choses qu'on voit pas ailleurs. Donc on sait qu'il y a aussi 2-3 radicaux qui se baladent dans la ville, qui font chier tout le monde. Donc évidemment qu'ils vont se planquer là, ils vont pas dans le 16e. On était tous dans la rue, on regardait ça comme un spectacle. Tout le monde était avec son iPhone, on était au spectacle. Et les journalistes étaient au spectacle aussi, c'était assez ignoble de les voir filmer. Ils filmaient comme un zoo, quoi. Dès que tu avais une femme musulmane qui était un peu choquée, qui sortait, ils sautaient dessus. « Oh, une musulmane, on va avoir son témoignage. Alors, vous n'êtes pas trop choquée en tant que femme musulmane ?» C'est horrible. J'ai jamais vu ça. Et les gens ont peur ici. Les gens. Moi, hier, j'étais en larmes devant le Stade de France et... parce que on est touché, enfin tu vois, il y a quelque chose ici où ça me bouleverse, quoi, parce que c'est l'horreur, quoi.
Ça va? Il y a moins de monde, hein? Comment ça se fait?
Avec
ça, mais bon.
En plus, il pleut.
Voilà, en plus il pleut, voilà, ça casse tout aussi. Ah oui, il y a de la réunion aujourd'hui,
oui.
Vendredi.
C'est vendredi,
ouais. Ah oui. L'imam, il a rappelé un peu tout le monde, là.
C'est normal.
S'ils font un petit peu de ménage là-dedans, ça serait pas mal, hein.
Bah, hier, il y a eu une cellule psychologique. Enfin, moi, personnellement, je ne les ai pas vues, mais il y a eu 5 personnes qui seraient venues mandatées donc, par l'Éducation nationale. Mais les petits n'ont pas eu le temps de les voir. Parce que, bah, évidemment, il y avait une grande queue, il y avait beaucoup de monde. Et puis ceux qui sont vraiment atteints, c'est toujours la même chose, n'iront pas. Moi, je sais que dans le collège à ma fille, une petite qui est complètement perturbée et elle n'ose pas aller vers les adultes. Elle était rue de la République, juste à côté du Courbillon. Et elle le dit, c'est une copine à ma fille, elle lui dit, moi j'entends des bruits, elle entend des bruits, elle entend tout le temps les... Bah, ça résonne dans sa tête, elle n'ose pas aller vers les adultes. On est tous touchés, on est tous traumatisés. Hein. Ouais. Moi, je sais que je n'avais pas l'habitude d'emmener mes enfants à l'école. Maintenant, on les emmène à l'école. On a fait un relais parents pour surveiller les abords du collège, quand même. On se relaie. Je sais que ça va durer longtemps.
Versailles. Je viens de descendre la rue de la paroisse et là je suis à l'angle de la rue Sainte-Geneviève. Et en face de moi, l'église Notre-Dame. Et un tout petit peu plus haut, le marché. On est une semaine après les attentats du vendredi 13 novembre.
Oui.
Et je voulais savoir tout simplement comment vous alliez.
Bah, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien, effectivement, mais on est en colère aussi. Il peut y avoir une bombe qui saute dans 30 secondes, la place du marché, là où on se trouve. C'est possible, pourquoi pas. Quand vous avez des milliers de gens qui viennent au château de Versailles, là, il y a aussi des assassins qui peuvent mettre une bombe, hein, ou se faire sauter. Si vous voulez, je vous dise, on a un gouvernement de cons. C'est tout. On a des gens qui ne voient pas au loin, ils n'ont rien. Moi, je suis de l'époque de De Gaulle. Hein. C'était vraiment un homme d'État. Bon, le pauvre De Gaulle, il doit retourner dans sa tombe là, quand il voit tout ce qui se passe en ce moment. Mais il l'avait dit, hein, qu'on pouvait pas mélanger l'huile et l'eau, vous voyez, en parlant des catholiques et des musulmans. Enfin, que des Français et des Arabes, si vous voulez. Je pense que tous ces gens-là, il faut les foutre à la porte. Voilà, c'est tout. Il faut en renvoyer quand même, à mon avis, il faut en renvoyer. On ne peut pas les garder et ça continue à venir. Il y a longtemps qu'on dit qu'il faut fermer les frontières. Hein. Marine Le Pen, il y a longtemps qu'elle le dit. Hein. Ça fait des années et des années. Moi, je trouve qu'elle a raison. Mais on ne peut pas non plus tout prendre tout le monde. C'est pas possible. Si on ne fait rien, on va devenir complètement musulman. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Je ne pensais pas du tout. C'est tellement dramatique. On ne peut pas penser à ça. C'est pas vrai. On sait qu'il y a des mosquées qui ont des imams qui sont des radicaux. On le sait, ça, c'est prouvé. On ne fait rien. Alors là, si, soi-disant, à Hollande, il va faire quelque chose, parce qu'il y a quand même 130 morts, là, il y a 8 jours. J'ai fait mon service militaire, j'ai fait 2 ans et demi d'armée, j'étais rappelé en Algérie, etc. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Et j'ai été élevé dans ce côté patriote, républicain, patriote, le drapeau, le bleu, blanc, rouge. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus. C'est tout. Moi, pour moi, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est ce qui compte le plus. Vous voyez, je suis tellement... J'ai mon pays, tout bêtement. Je m'excuse, je suis... Quand je parle de ça, chaque fois, j'ai des larmes aux yeux, j'ai... Vous comprenez ça? Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est tout. J'ai été élevé comme ça. Voilà ce que je ressens. Ce que je ressens vraiment du plus profond de moi-même.
Vendredi 20 novembre, une semaine après les attentats de Paris, dans un petit village, Maël Pestivien, 500 habitants, tout au sud des Côtes d'Armor, au centre de la Bretagne. Aujourd'hui, il pleut des cordes, et donc il n'y a personne dans les champs, personne dans les rues. Mais là, sur le long de la route, j'ai vu que 3 personnes étaient réunies dans une véranda, devant une maison. Je vais aller frapper à la porte. Je suis désolée de vous déranger, je vous ai vu depuis la route à travers la fenêtre. Mmh. Et vous, alors vous êtes entre amis ce soir, c'est ça? Vous vous réunissez entre amis pour l'apéro?
Oui.
Et vous êtes tous habitants du village?
Oui. Moi j'habite le village depuis 68 ans.
Et vous faites quoi dans le village?
Rien. Maintenant je suis en retraite. Rien. J'étais agriculteur avant.
Retraité des postes.
Je suis aussi en retraite. C'était moi qui passais la trieuse sur les vaches. Voilà.
Et vous êtes premier conseiller municipal?
Oui.
Elle est bien tombée. Hein.
Vous avez appris comment ces événements? Vous étiez où? Et qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, j'étais devant ma télévision, le soir, tranquille. Puis j'ai vu ça.
Ça fait un choc, ça.
Ça fait un choc, mais bon. On va dire qu'on est loin du feu, quand même, mais bon. On se sent loin ici, quand même, mais bon, à la vitesse où on peut y aller maintenant, ça, Paris, on est aux portes de Paris, parce que en 5 heures, ils sont en Bretagne.
Moins que ça. Ils sont partout, quoi. C'est ça le problème.
Oui. Pourquoi ça ne pourrait pas arriver ici?
Oui, aussi. Maintenant, on se dit que pourquoi ils ne s'en prendraient pas justement au petit rassemblement maintenant?
plus loin des capitales ou des grandes villes.
Plutôt que des grands rassemblements, ils pourraient s'en prendre à des petits rassemblements, 10, 15, 20 personnes.
Oui, plutôt les fêtes du village, comme il y a par chez nous maintenant, oui. Les fêtes de quartier. C'est au moment qu'il y aura des rassemblements qu'il faudra, je pense, être un peu plus prudent. Je pense qu'on regardera plus la personne qui semble étrangère. On sera plus méfiant, on va se demander d'où elle est, qui elle est.
Fermer les frontières, ça ne sert plus à rien, ils sont là alors, déjà depuis longtemps. C'est pas la peine de fermer la porte sur le poulailler quand le renard est dedans.
Et à la mairie de Maël Pestivien, vous avez pris des mesures particulières?
Non, il n'y a pas de fête en ce moment, donc...
Voilà, mademoiselle, je crois qu'on vous a tout dit. Hein.
Merci beaucoup pour votre réaction. Et puis, je continue ma petite tournée de la région.
C'est vrai, on se plaint pas. C'est pas mal. Je m'appelle François Saliou.
Je m'appelle Amida Boukaïs.
Je suis originaire de la région de Guingamp, au nord de Guingamp. Et puis je suis arrivé ici, bientôt ça fera 40 ans. Et on s'est installé en GAEC, en production laitière. Et puis on a accueilli les enfants de copains comme ça. Et puis on avait eu aussi des copains qui nous amenaient des groupes d'enfants. Et on s'est dit, mais la ferme est un lieu extraordinaire pour accueillir des enfants. Et on a créé ce gîte d'enfants. Là.
Et alors, vous avez appris comment les attentats qui ont eu lieu la semaine dernière?
Moi, j'étais sur France Inter le matin. Je suis tombé des nues. Tout de suite, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on est bien en Bretagne. Enfin, c'est vrai que c'est fou, quoi. Je me dis, mais les citadins, mais ça va être l'horreur, la peur, sans arrêt. Ça va être... C'est la première réaction.
Pendant une semaine, je crois que je me suis laissé aller à cette émotion avec les autres. Et petit à petit, je me suis dit, mais il est temps de prendre du recul et de commencer à analyser. Donc d'essayer d'entendre d'autres sons de cloche que la peur, faut s'armer, c'est la guerre. Donc essayer de voir, mais pourquoi des enfants, parce que ce sont des enfants, arrivent à des extrêmes pareils. J'avais envie de comprendre. Quelle humiliation ils ont vécu pour en arriver là. Les pays qu'on a colonisés ont été humiliés, etc. Toutes ces humiliations, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des petites bombes. Et puis je me suis dit aussi que dans les religions, il y avait des maturités. Et la chrétienté a eu aussi son Daesh hein, avec l'Inquisition. Et c'était un moment de l'histoire religieuse. Pourquoi les religions arrivent à cette violence-là? Moi, c'est vrai que je suis une mécréante, issue du monde musulman, de l'Algérie. Ma mère était pratiquante, mon père non, et nous, très jeunes, on a rejeté. Pour moi, la spiritualité, parce que je pense que tout être humain en a une, elle est intime. Elle vit par rapport à notre propre conscience, par rapport aux valeurs humaines, aux valeurs de la nature. Mais, comme disait ma mère, vous êtes élevé au quotidien en tant que musulman. Et ça, vous ne pouvez pas vous l'enlever. Et donc, on a un travail sur nous à faire pour refuser certains dogmes. Comme moi, je vois des copains... issus du monde chrétien, font ce travail pour refuser des dogmes qui ne leur plaisent pas.
Et quand vous dites ces humiliations, vous en avez reçu, vous?
Moi, là où je l'ai reçu, c'est pendant la guerre d'Algérie. Mes parents étaient militants, entre guillemets. Ma mère passait de l'argent pour le FLN. Et régulièrement, la gendarmerie arrivait à la maison, mettre tout en l'air. Ils se doutaient bien que... Il y avait quelque chose, donc on a eu des peurs terribles. On était en guerre. Moi, j'ai compris plus tard que j'avais vécu une guerre.
brother. Oh, what's up? This is a cool recording, man. Yeah, I can dig it. Stop. Right on.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and get here today. Oh, picket line. Signs. Don't punish me,
sister,
with brutality.
Sister,
talk to me,
sister,
so you can see.
Sister,
oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Ah, ah.
Right on.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, une semaine après, un reportage de Jérôme Sandelard, Émilie Chaudet, Rémi Douat et Inès Léraud, réalisé par Soma Nina. Mixage Jacques Hubert, attaché de production Sandrine Chaperon. Vous pouvez laisser des commentaires sur le site de franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notre page Facebook ou notre compte Twitter. Bon après-midi, restez sur France Culture.
Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you. Right on.